Chapitre 13. Balard s'ordonna de ne pas s'énerver contre Bosch. Elle savait que le maître dans une équipe n'en ferait pas un coéquipier. Cela n'était tout simplement pas dans son ADN. Elle se leva et gagna le bureau du rebelle. Le paquet qu'elle lui avait préparé pour l'affaire Wilson était toujours posé dessus. Il lui avait promis de lui donner son avis avant la fin de la journée, mais seulement s'il avait les documents à analyser. Elle reprit le paquet et retourna à son poste. Elle ferait le travail elle-même si Bosch refusait. Dans la répartition des tâches assignées à l'équipe, elle s'était gardé les réseaux sociaux de Laura Wilson. Les données récupérées dans son ordinateur et son téléphone portable avaient été téléchargées sur des clés USB glissées dans la poche du rabat de couverture du livre du meurtre. Elle avait étudié le contenu de chacune d'elles un peu plus tôt dans la journée et se préparait à s'y replonger, mais décida de mettre ce travail de côté et de commencer par jeter un coup d'œil à ce qu'elle avait donné à Bosch. Elle avait déjà étudié et sérieusement les rapports de médecine légale et les photos de la scène de crime, après avoir relié les affaires Wilson et Perlman, elle décida de s'attaquer à cette tâche d'une autre manière. Qu'il se trouve sur la scène de crime en personne ou qu'il en étudie les photos, l'enquêteur se concentre toujours sur ce qui en constitue le cœur, soit le cadavre, et ces photos étaient tout aussi horribles à regarder que celles de Sarah Perlman. Il s'agissait du corps d'une jeune fille violée et assassinée. D'une vraie nature morte de rêves et d'espoirs volés, Balard décida de mettre ses clichés de côté et de travailler l'affaire de l'extérieur vers l'intérieur. Le photographe de scène de crime s'était montré exhaustif en prenant des dizaines de clichés environnementaux de tout le foyer de la victime au moment des faits. Contenu des penderies, des armoires et des tiroirs, en plus des photos encadrées accrochées au mur, l'ensemble donnait aux enquêteurs un accès rapide à tout ce qui entourait le lieu du meurtre. Il leur permettait aussi d'avoir une meilleure compréhension de la jeune femme en leur révélant la manière dont elle avait aménagé son domicile et leur faisant découvrir les objets qui avaient compté le plus pour elle dans sa vie. Bien que l'appartement de Wilson se réduise à une seule chambre, il s'y trouvait d'amples espaces où ranger habits et autres possessions. Balard passa lentement en revue ses photos en s'arrêtant sur celles qui retenaient son intérêt au fur et à mesure qu'elle avançait. Les vêtements accrochés dans son dressing indiquaient qu'elle consacrait une grande partie de ses revenus à ce qu'elle portait, ou que l'argent dédié à sa garde-robe revenait en partie de ses parents ou d'autres personnes de sa connaissance. Rien dans ses documents ne montrait qu'elle aurait eu un petit ami. À l'époque, elle s'était fait connaître sur deux réseaux sociaux naissants, MySpace et Facebook. Mais ce que Balard en avait déjà analysé ne faisait pas d'elle une fêtarde d'Hollywood. Laura Wilson donnait l'impression de s'en tenir sérieusement à son plan de 5 ans. Son bel assortiment de chaussures et de vêtements en faisant plus que probablement partie. Certains enregistrements de ses auditions conservés dans son ordinateur montraient qu'elle visait souvent des rôles de femmes jeunes mais sophistiquées, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Elle s'habillait chaque fois en conséquence et c'était maintenant le dressing même où elle avait élaboré ses tenues que scrutait Balard. Tout cela avait quelque chose de déprimant. La jeune femme avait eu des projets. Elle avait travaillé dur pour les mettre en œuvre. Elle s'était préparée, s'était tenue devant son miroir, s'était assurée d'avoir le look qui convenait au rôle qu'elle désirait. Mais son ambition lui avait été dérobée lors d'une horrible nuit de violence. Balard se jura de ne plus jamais laisser cette affaire moisir sur une étagère. Que quoi qu'il arrive, elle y travaillerait aussi longtemps qu'il lui serait donné de pouvoir le faire. L'émotion qu'elle ressentit alors la frappa si fort qu'elle reprit le livre du meurtre pour y chercher la page des contacts. Les proches de Laura se réduisaient à Philip et Juanita Wilson, son père et sa mère, originaires de Chicago. Philip y était brièvement décrit comme un membre du comité directeur de la 14e circonscription électorale et Juanita comme enseignante. Balard savait qu'elle allait rouvrir de vieilles plaies en les appelant. mais savait aussi qu'un père et une mère ne surmontent jamais la mort d'un enfant, de quelque âge que ce soit. Elle voulait qu'il sache que l'affaire ne dormait plus sur une étagère et qu'on y retravaillait. Elle composa le numéro. Il était encore bon au bout de 17 ans. La voix d'une vieille femme lui répondit. Laura Wilson aurait-elle été toujours vivante qu'elle aurait eu plus de 40 ans, et fait de ses parents au minimum des sexagénaires et probablement plus. « Madame Wilson ?»«
Oui, c'est le LAPD. »
Ballard se rendit compte que son téléphone de bureau affichait sans doute une identification générique. « Oui, madame, je m'appelle René Ballard, je suis inspectrice à la police de Los Angeles et je dirige le service des affaires non résolues. »«
Vous l'avez attrapé, l'homme qui a tué mon bébé ?»«
Non, madame, pas encore. Je vous appelle pour vous dire que nous avons rouvert l'enquête et que nous suivons de nouvelles pistes. Je voulais juste que vous le sachiez. »«
De nouvelles pistes ? Lesquelles ?»«
Je ne peux pas vraiment en parler pour le moment. » Mais s'il y a du nouveau et que nous arrêtons quelqu'un, je vous appellerai, vous et votre mari, pour que vous soyez les premiers informés. Je voulais juste vous présenter mon...
Mon mari est décédé. Du Covid, il y a 2 ans, juste quand ça a commencé.
Je suis désolé de l'apprendre.
Il est avec Laura maintenant. À la fin, il n'arrivait plus à respirer. Il est mort comme elle, parce qu'il ne pouvait plus respirer.
Ballard n'était pas très sûr de savoir comment mettre fin à son appel. Elle avait cru redonner de l'espoir aux parents de Laura, au lieu de quoi elle ne faisait que rappeler à sa mère le traumatisme qui les avait affectés. « Mais je peux vous dire une chose, Madame Wilson. Ceci strictement entre nous pour l'instant. Nous avons relié l'affaire de votre fille à une autre, et nous espérons qu'enquêter sur les deux à la fois nous aidera à trouver l'individu qui a fait ça. »
« Quelle autre affaire ? Vous voulez dire un autre meurtre ?»«
Oui, antérieur à celui de Laura. Et il y a correspondance ADN. »«
Vous voulez dire qu'avant que Laura ait été assassinée par cet homme, il avait tué quelqu'un d'autre ? Une autre fille ? Avez-vous émis un avis de recherche ?»«
Le lien n'a été établi que par l'ADN et les caractéristiques de ces deux crimes sont assez différentes pour qu'aucune similitude n'ait été décelée à l'époque où ils ont été commis. Avez-vous quelque chose pour noter mon nom ? Je vais vous donner mon numéro de portable au cas où vous auriez des questions et s'il y avait du nouveau. » La transition était maladroite, mais Ballard espéra qu'elle conduise à la fin de l'entretien. Juanita Wilson prit son nom et son numéro de portable. Ballard termina son coup de fil en l'invitant à l'appeler si elle avait des questions ou pensait à quelque chose qui pourrait aider la nouvelle enquête. Elle avait à peine raccroché que Colin Hatteras passait la tête au-dessus de la demi-cloison. « La mère ? » demanda-t-elle. « Oui, » répondit Ballard, agacé qu'elle ait entendu la conversation. « Et le père est mort ? » reprit Hatteras. « Oui. » À ses yeux, jamais justice n'a été faite pour sa fille.
« Covid ?»«
Oui. » Ballard la regarda en se demandant s'il s'agissait d'une supposition éclairée ou d'un sentiment d'empathie, et décida de ne pas poser la question. « Comment ça se passe avec les déclarations des témoins ? » demanda-t-elle à la place. La terrasse avait hérité des déclarations des contacts socioprofessionnels de Laura Wilson, afin de déterminer si elles étaient cohérentes ou nécessitaient un suivi d'enquête. Il y avait peu de chances que cela donne des résultats dans la mesure où le meurtre s'étant produit depuis bien longtemps, les gens interrogés risquaient de ne pas se rappeler grand-chose de cette époque.
« Rien qui saute aux yeux pour l'instant, » répondit Hatteras. « Mais je n'ai pas tout revu. »
« Ok, » dit Ballard. « Tenez-moi au courant. »«
Avez-vous demandé à voir les preuves au scellé ?»«
Oui, et je l'ai dit pendant le briefing. Elles devraient arriver ici aujourd'hui ou demain. Pourquoi ?»«
Je pourrais en voir la liste ?»«
Bien sûr. » Ballard la trouva facilement dans le livre du meurtre, ouvrit les anneaux du classeur et lui tendit la page par-dessus la demi-cloison. « Qu'est-ce que vous cherchez ?» lui demanda-t-elle. Hatteras ne répondit pas avant d'avoir épluché la liste des biens et éléments de preuve déposés en 2005.
« Je voulais juste savoir ce qu'il y avait. Ils ont gardé sa chemise de nuit et les draps.
C'est ça, lui confirma Ballard. Ces éléments de preuve auraient été présentés au tribunal si un dossier avait été constitué.
J'arrive parfois à communiquer avec ce genre de preuves.
Qu'entendez-vous par communiquer ?
Je ne sais pas. En tirer une impression ? Recevoir un message ?
Colin, lui renvoya Ballard, je ne pense pas que nous allons suivre ce chemin. Il faut absolument que je blinde nos enquêtes afin qu'on ne puisse pas les mettre en doute en audience, vous comprenez ? Pour moi, suivre le chemin psychique, et je vous en prie, ne le prenez pas personnellement, ce serait susciter des questions de crédibilité.
Je sais, et je comprends. Ce n'est qu'une idée, quelque chose à envisager si nous finissions par aller dans le mur.
Ok, je vais garder ça à l'esprit, mais vous m'avez déjà dit avoir eu des messages à partir d'éléments de preuve de ce genre. Quand cela vous est-il arrivé ?
C'est que je n'ai jamais fait ça de manière officielle, mais il est arrivé que des familles fassent appel à moi après avoir entendu parler de mes dons.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert tout le domaine de la généalogie, à cause des familles qui voulaient des réponses. Ballard se contenta de hocher la tête et regretta qu'Atéras ne l'ait pas mentionné lors de son entretien d'embauche.
« Bien, dit-elle, je vais m'y remettre, Colin. »«
Ok, moi aussi. »
La terrasse disparut derrière la cloison, Ballard essayant d'écarter l'impression grandissante qu'elle avait fait une erreur en l'intégrant dans l'équipe. Elle reprit son analyse des photos de la scène de crime. Le dressing de Laura Wilson comportait une commode encastrée, juste à côté de l'étagère à chaussures. Le photographe en avait ouvert chacun des 6 tiroirs et pris des clichés de ce qu'il contenait sans rien déranger. Les 4 tiroirs inférieurs étaient bourrés de vêtements pliés, de sous-vêtements et de sockets. Les 2 petits tiroirs contigus au-dessus étaient, eux, essentiellement pleins de bijoux et de bandeaux pour les cheveux et autres accessoires vestimentaires. L'un de ces tiroirs semblait aussi ne contenir qu'un fatras de reçus, de sachets d'allumettes, de cartes postales, de petites monnaies, d'écouteurs, de chargeurs de portables, de bonbons d'Halloween et autres objets. Mais l'un d'eux attira soudain et très fortement l'attention de Ballard. Il s'agissait d'un pin's orné du mot « Jake », imprimé en lettres oranges au bas duquel étaient attachés 2 courts rubans à rayures tricolores rouge, blanc, bleu. L'objet la faisant réfléchir, elle chercha vite Jake Pearlman sur Google. Si le conseiller municipal n'avait rien d'un politicien de stature internationale, il avait quand même droit à un article Wikipédia détaillant son accession au pouvoir. On y découvrait sa première campagne au poste d'adjoint au maire en 2005. Il l'avait menée pour occuper le siège vacant d'un conseiller qui avait renoncé à son poste à la suite de sa mise en accusation pour violation des règles de financement de sa campagne. Jake Pearlman avait perdu l'élection, mais était resté actif en politique et, plus d'une décennie plus tard, avait enfin gagné ce même siège au conseil municipal. Ballard n'avait pas eu connaissance de cette première campagne de Pearlman, mais venait de reconnaître ce pin's parce que l'adjoint au maire avait apprécié sa simplicité et s'en était servi lors d'élections plus récentes. Elle se renversa dans son fauteuil et réfléchit. L'élection de 2005 s'était déroulée le 8 novembre, soit à peine 3 jours après l'assassinat de Laura Wilson. À un moment donné de cette campagne, celle-ci avait donc pris ou reçu un de ses pins qui avait fini par atterrir dans son tiroir fourre-tout. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier, si tant est que cela voulût dire quoi que ce soit ? Était-ce donc une simple coïncidence qu'elle ait porté un pin's pour soutenir un candidat dont la sœur avait péri quelque 11 ans plus tôt sous les coups d'un homme qui devait finir par la tuer, elle aussi ? Ballard devait envisager qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence, mais que ce lien ait un sens dans l'affaire. Toute la nécessité de suivre cette piste et d'obtenir plus de renseignements. Et bien sûr, d'en parler à Harry Bosch.